Voilà.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Bhagavate Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki jai. Alors voilà, on est à la page 141.14.3, la ligne 25. Virginie, est-ce que tu serais capable de lire?
Oui, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend très bien.
Ok, parce que toi, je suis pas sur mon ordinateur de base, donc. Ça, moi, j'ai un mauvais réseau. Ça passe mal, en fait.
Mm.
Alors, je vais peut-être augmenter le son.
Le son est correct de notre côté. Bon, là, il y a un Ananda qui s'en vient.
OK. Alors, je vais attendre qu'elle arrive.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Bol.
Hare Bol.
On commence le cours à la page 141, le point 14.3. On a demandé à Virginie de lire, si c'est possible, sinon ça va être Ananda.
Oui, mais ça va, je vais essayer, vous me direz.
OK.
14.3. D'autres se sentent plutôt enclins à savourer des légumes, plantes comestibles, épinards ou produits laitiers, mais toujours pour la satisfaction de la langue. La satisfaction de la langue pour l'amour de la langue comme telle n'est pas un critère pour un dévot, ni même le végétarisme pour le bien-être de l'être. Srila Prabhupada conclut ainsi sa teneur et portée du mantra 1 de la Sri Isopanishad. Dans la Bhagavad Gita 9.26, le Seigneur dit clairement qu'il accepte les aliments végétariens que lui offrent ses purs dévots. Par suite, l'homme doit non seulement devenir végétarien, mais doit aussi devenir un dévot du Seigneur. Il doit servir Dieu avec amour et lui offrir tous ses aliments pour n'en partager que les reliefs, appelés prachad, la miséricorde de Dieu. Seul celui qui agit ainsi s'acquitte convenablement de ses responsabilités humaines. Celui qui n'offre pas sa nourriture au Seigneur ne mange que du péché et s'expose à toutes sortes de malheurs, conséquences de ses actes coupables. Bhagavad Gita 3.13. La racine du péché est la désobéissance délibérée aux lois de la nature, manifestée par le refus de reconnaître le droit de propriété absolue du Seigneur. La transgression des lois de la nature, de l'ordre du Seigneur, entraîne la ruine de l'homme. Au contraire, si l'on est censé, si l'on connaît les lois de la nature, et si l'on reste libre de l'attachement comme de l'aversion, on est certain de retrouver la considération du Seigneur et de devenir digne de retourner vers lui, dans son royaume éternel.
Jai, merci beaucoup. Hare Krishna, Om Gyana Timurandasya Giranjana Sadakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Prabhupada Ki Jai. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, la teneur est portée qui a été lue. C'est pas long comme teneur est portée, comme extrait de teneur est portée, mais c'est tellement important, tellement fondamental, que surtout le premier paragraphe de cette teneur est portée, ça devrait faire partie de l'ADN d'un dévot. En d'autres mots, un dévot, sans ces principes-là, les accepter à 100% de plein cœur, Il manque quelque chose aux dévots. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est fondamental. Alors, c'est dit ici, bon, on recommence, là. La satisfaction de la langue pour l'amour de la langue comme telle n'est pas un critère pour un dévot. Alors ça, c'est, disons, pour un dévot, c'est, on coche sous la colonne de non, N-O-N. Ensuite, ni même le végétalisme pour le bien-être de l'être. Ça aussi, c'est non. C'est oui d'un côté, d'un point de vue de santé, parce qu'un dévot, comme n'importe qui, doit prendre soin de sa santé. Alors, c'est mieux d'y aller pour le végétalisme que le non-végétalisme. Mais juste pour l'amour du végétalisme, c'est pas suffisant pour un dévot. Alors, Sri Prabhupada, ensuite, il dit les choses comme elles devraient être pour un dévot. Alors, être végétarien, oui, mais plus que ça. Offrir sa nourriture à Krishna, automatiquement, on devient végétarien. Et c'est ça qui est plus important que juste le simple fait d'être végétarien. Parce que même si quelqu'un est végétarien, qu'est-ce qui va arriver au niveau du karma? T'entends pas?
Ben, tu les aliments, alors il y a du karma automatiquement. C'est même si c'est une légume ou tout ça.
Exactement. Alors, qu'est-ce que Krishna veut d'un dévot? Il veut que le dévot soit protégé des réactions du karma. Et comme Krishna dit, abandonnez-vous à moi et moi en retour, je vous sauve des réactions de toute activité pécheresse. Alors, comme Krishna dit aussi dans la Bhagavad Gita, les dévots deviennent purifiés parce qu'ils ne mangent qu'une nourriture qui a été offerte en sacrifice. Et cette nourriture-là, c'est la nourriture offerte à Vishnu ou à Krishna, c'est pareil. Et à ce moment-là, cette nourriture a été transformée de matériel à spirituel. Alors, il y a un point intéressant dans la Bhagavad Gita. Srila Prabhupada parle des aliments qui causent la maladie. Par contre, ça s'applique pas au prachad. Donc, les aliments qui sont trop vieux causent la maladie. Mais au prachad, ça ne s'applique pas parce que c'est une nourriture complètement spirituelle. Alors, le prachad a beau être vieux, disons, d'un point de vue externe ou matériel, mais il est complètement spirituel. Il n'y a pas de crainte à avoir pour le prachad. C'est la miséricorde de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. C'est correct. Alors, comme c'est dit ici, celui qui n'offre pas sa nourriture au Seigneur ne mange que du péché et s'expose à toutes sortes de malheurs, conséquences de ses actes coupables. Alors, déjà, en partant, si la nourriture n'est pas offerte à Krishna, ben, c'est déjà un péché en soi. Alors, comme Prabhupada explique, un homme qui vit dans le péché, comment est-ce qu'il peut s'attendre à avoir le bonheur? Ça marche pas, là. Mais les gens s'en rendent pas compte. Ça, c'est sûr. Maya est tellement, disons, bonne à enlever la connaissance du moi spirituel aux âmes conditionnées que les gens considèrent ce qui n'est pas bon dans le fond comme bon. Tout est renversé, tout est inversé, je veux dire. Qu'est-ce qui est bon n'est pas bon. Et qu'est-ce qui est pas bon est bon. Lorsque on est dans Maya, sous l'influence de l'énergie matérielle. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Une question, comme le signal nous dit de manger des feuilles, des graines, de tout ça, et non la viande, c'est à cause de le côté nutritif aussi, veut dire comme le, on mange, en vérité, on mange le produit soleil. Le plus pur possible, c'est à travers les feuilles et les fruits et tout ça. Tandis que l'animal, c'est comme une énergie secondaire, c'est raffiné. Alors ça baisse beaucoup l'énergie de notre état de conscience. Pour voir le Seigneur, il faut être dans la plus haute énergie possible pour le comprendre et saisir l'enseignement de Krishna. Alors c'est une des raisons aussi, de dire que il nous guide les aliments nécessaires pour mettre dans notre feu de sacrifice pour avoir le maximum d'énergie à travers de ça aussi.
Oui, disons que la réaction pécheresse de manger de la viande, c'est qu'aussitôt que quelqu'un mange de la viande, au niveau de son cerveau, ça bloque. Dans le sens, il n'est pas permis de comprendre les sujets subtils de la vie spirituelle. Ça rentre pas, là. Ah, c'est très dommage. Et ils ont plus d'intérêt. Les gens qui consomment la viande, là, disons, comme si de rien n'était, ils n'ont pas d'intérêt pour la vie spirituelle plus qu'il ne le faut. En tout cas, pas capable de comprendre les sujets plus subtils de la vie spirituelle.
Une autre chose, c'est comme là, de ces temps-ci, il y a de la viande synthétique produite en laboratoire. C'est le même effet que manger de la viande, c'est-à-dire, parce que c'est les cellules, les stem cells, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, en français, c'est quand même produit de la base d'un animal ou d'un humain, ils disent quelque chose comme ça. Alors ça, c'est pas bon non plus. C'est juste pour le plaisir.
Ouais. Disons que il faut s'en tenir à ce que Krishna demande. Et Krishna demande si on m'offre avec amour, dévotion, une feuille, une fleur, un fruit et un peu d'eau, cette offrande, je vais l'accepter. Alors, c'est ce que Krishna demande. Le Prabhupada dit dans la teneur portée, chapitre 9, verset 26, justement ce verset de la Bhagavad Gita. Alors, Prabhupada dit, si Krishna avait demandé qu'on lui offre de la viande et des œufs, on offrirait à Krishna. Mais il n'a pas demandé. Il a demandé des aliments qui sont dans la vertu, par nature, les fruits, les légumes, les produits laitiers, les grains, les céréales. Et avec ces ingrédients-là, Prabhupada dit, des milliers de préparations peuvent être faites. Alors, où est le problème? C'est pas la variété qui manque, ou les possibilités de variété qui manquent. Tandis que si on parle de consommation de viande, à ce moment-là, ça devient bien compliqué. Ça prend des frigidaires, ça prend des poêles, ça prend des ustensiles. Tandis que c'est une nourriture végétarienne, comme Krishna le demande, tu peux manger avec tes doigts, pas besoin de fourchette, pas besoin de couteau. Vraiment, là. Quoique ça peut être utile, là, d'avoir une bonne cuillère pour manger. Mais ça peut être mangé avec les doigts, tandis que mets-toi un steak, tu peux pas manger ça avec tes doigts. Ça te prend une fourchette, ça te prend un couteau, ça. Et quoi d'autre encore? Who knows? Alors, tu regardes ça, mettons, les grands restaurants avec les grands services, les couverts. Ils appellent ça couverts, là. Je sais pas combien de couverts. Je pense qu'un grand festin, là, ça va chercher jusqu'à, j'ai déjà entendu ça, 17 couverts.
17?
17!
Ah.
17 couverts. Je sais pas qu'est-ce qu'ils prennent, mais je sais pas, moi, tu manges 2-3 couverts et tu devrais être assez plein, mais là, 17 couverts, ça se peut-tu? Alors, évidemment, un festin comme ça, là, mettons à 100, 200, peut-être 1000 invités, il y a pas mal de trucs qui sont jetés aux poubelles par l'après, parce que c'est pas tout le monde qui va tout manger. C'est juste trop. Alors, ça, c'est comment on peut dire, le mode de vie de gaspillage. Et puis, à la fin, est-ce que les gens sont plus satisfaits? Pas plus. Comme Prabhupada dit, la viande est tellement indigeste que ça prend de l'alcool pour la digérer, pour faciliter la digestion. Alors, tu prends l'alcool, tu prends la viande, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est le sexe. En mangeant la viande, les désirs sexuels vont grandir. Et next step, après, quand tu t'es complètement défoulé, ben là, tu vas aller dormir, tu vas te foirer, et puis tu vas passer beaucoup, beaucoup d'heures, si tu travailles pas le lendemain, évidemment. Et puis, ainsi va la vie matérielle, manger, dormir, s'accoupler, se défendre, et alouette. Alors, c'est ça.
Les chatriyas, par exemple, dans l'époque, il était permis de manger de la viande parce qu'il y avait besoin d'agression, de combat, de force, je sais pas, quelque chose comme ça, là, non?
Oui, c'était permis pour eux autres, mais sans doute que c'était pas, ça devait pas être à gogo, là. Tu sais, il devait avoir une certaine forme de régulation. Je sais pas si on peut dire ça en français, là, de forme de prescription et règlement. Et puis, voilà, les kshatriyas, c'est kshatriyas, mais les brahmanas et puis les gens ordinaires n'ont pas besoin de ça. Là. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est une des caractéristiques de l'âge de Kali. La consommation de chair animale, c'est un. Et de deux, les relations sexuelles illicites, ça, c'est une autre caractéristique, les jeux de hasard et l'intoxication. C'est les caractéristiques de l'âge de Kali. Et ça a commencé il y a 5000 ans. Tu sais, Maharaj Parikshit, il l'a vu, à un moment donné, il y avait un soudra qui frappait une vache, les pattes de la vache. Il en restait juste une, je pense, qui était encore correcte. Alors, Prabhupada explique, là, les colonnes de la vie spirituelle sont mises en péril dans l'âge de Kali. Et la seule qui reste, c'est la véracité. Mais le reste, c'est, disons, ça brille par son absence. Voilà.
Les trois autres, c'était une, c'était l'humilité, la lust.
La convoitise.
La convoitise, c'est le lust, c'est convoitise.
Ben, lust, c'est convoitise, là.
Okay. Et une autre m'a rappelé.
Moi non plus, ça m'échappe, là, pour le moment, mais ça, c'est dans le Srimad Bhagavatam, c'est dans le premier chant de Srimad Bhagavatam. Il faudrait revenir là-dessus pour être sûr qu'on parle exactement de ce dont il s'agit. Et puis, voilà. Alors, on va continuer. Ananda, es-tu là?
Oui, je suis là.
OK.
Oui.
Alors, pourrais-tu prendre la relève dans la lecture, oui, s'il vous plaît?
Oui. 14.4. L'homme conscient de Krishna doit éviter toute habitude alimentaire centrée sur le seul plaisir des sens. Il est une expression en Inde en lien avec les brahmanas qui vont se baigner dans le Gange durant des jours de jeûne complet ou même boire de l'eau est proscrit. Boire de l'eau sous l'eau les jours de jeûne. Voyez-vous la duplicité? Un homme conscient de Krishna doit toujours se rappeler la raison pourquoi il mange en premier lieu. C'est-à-dire, tel que Srila Prabhupada l'écrit souvent, pour garder l'âme et le corps ensemble. Il n'a pas d'affaire à être un gourmet. Que faut-il dire d'être gourmand? Il mange pour rester en vie et servir Guru et Krishna. Évidemment qu'il ne peut s'empêcher de goûter la nourriture et d'apprécier naturellement la saveur des plats savoureux. De plus, il en va ainsi dans la prière de Srila Bhaktivinoda Thakur. Le corps matériel n'est qu'ignorance, ô Seigneur, et les sens forment un réseau de sentiers qui mène à la mort. Pour une raison ou pour une autre, nous avons chu dans l'océan du plaisir des sens. Or, de tous les organes des sens, c'est la langue le plus vorace et le plus difficile à maîtriser. Mais tu fais montre, ô Krishna, d'une grande bonté envers nous, car tu nous donnes pour en devenir maître ce délicieux prachad, cette nourriture consacrée. Prenons donc ce prachad à notre entière satisfaction, rendons gloire à leur grâce Sri Chirada et Krishna, et invoquons avec amour l'aide de Sri Chaitanya et de Prabhu Nityananda. Il est dit ce délicieux prachad, cette nourriture consacrée. Le mot délicieux sous-entend l'acte de goûter combien c'est bon. Les dévots ne sont pas des impersonnalistes qui se refusent de façon délibérée des mets délicieux, mais ils acceptent le prachad dans un sentiment d'appréciation pour les reliefs de la nourriture qu'ils considèrent que Krishna a personnellement goûté. Les impersonnalistes voient le prachad comme matériel, bien que ce ne soit pas le cas. Il en va ainsi de la mystique entourant le prachad. En fin de compte, les dévots connaissent un mode de vie des plus enviables, manger, festoyer, danser.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors ça, c'est intéressant. La petite... ce que Prabhupada dit, là, c'est une expression en Inde, en lien avec les brahmanas. C'est-à-dire boire de l'eau sous l'eau les jours de jeûne. Alors, est-ce que ce n'est pas hypocrite, ça? Boire de l'eau sous l'eau les jours de jeûne. Est-ce que ce n'est pas hypocrite?
De l'eau, c'est considéré manger.
Non. Mais là, on parle, tu vois, c'est dit ici, on recommence le paragraphe parce qu'il y a une nuance là. C'est dit, il est une expression en Inde en lien avec les brahmanas qui vont se baigner dans le Gange durant des jours de jeûne complets où même boire de l'eau est proscrit. Alors, un jour de jeûne où même boire de l'eau est proscrit. C'est-à-dire, c'est défendu. C'est interdit. Mais les brahmanas vont se baigner dans le Gange et ils vont sous l'eau et ils boivent de l'eau sous l'eau. Alors, la question, c'est est-ce que ce n'est pas hypocrite?
Merci.
Ouais, un petit peu merci. Mais est-ce que Krishna ne les voit pas?
Mais bien évidemment que si.
Évidemment que Krishna les voit. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une expression. Alors, dans la vie spirituelle, il faut justement se garder de duplicité. Alors, faut être à sa place. Si jamais on n'est pas à notre place, il faut prier Krishna de l'être et puis faire en sorte qu'on le soit. C'est la discipline de la conscience de Krishna. Alors voilà. Alors, la conscience de Krishna n'est pas artificielle. Alors, donnons un exemple que la conscience de Krishna n'est pas artificielle dans ce qu'on vient de lire.
le fait d'offrir le prashad, il y a un lien en permanence d'offrir le repas préparé pour Krishna et d'en goûter les reliefs après que lui, il en ait bénéficié pleinement.
D'accord.
C'est complètement interactif. C'est vraiment une foi vivante, active, interactive.
Oui.
De manger telle chose, la conscience de Krishna, c'est comme une science. Si on veut être en santé, il nous dit exactement les choses à manger et à pas manger.
D'accord. Ah, je voulais faire un point avant que j'oublie, OK? J'ouvre une petite parenthèse, OK? Alors, à la ligne 11 et 12, d'accord? Alors, voici, c'est moi qui écris le paragraphe, là. Alors, c'est dit ici, un homme conscient de Krishna doit toujours se rappeler la raison pourquoi il mange en premier lieu. C'est-à-dire, tel que Śrīla Prabhupāda l'écrit souvent, pour garder l'âme et le corps ensemble. Alors, ça, c'est ma traduction de ce que Prabhupāda écrit souvent, to keep body and soul together. Ça, c'est je l'ai traduit comme ça, et je pense que ça fait du sens.
Oui.
Mais, dans les livres français de Prabhupāda, cette expression-là, je veux pas dire tout le temps, mais je pense pas que c'est tout le temps. Je pense que parfois, et peut-être même un peu trop parfois, c'est mon humble avis, c'est traduit par se garder en bonne santé. Alors, se garder en bonne santé, puis garder l'âme et le corps ensemble, il me semble que c'est différent.
Complètement, ça colle pas avec la version en anglais. La version en anglais, elle est textuellement, comme tu l'as traduit. D'ailleurs, ça fait tout son sens, garder l'âme et le corps ensemble.
Exactement.
Tandis que l'histoire de la bonne santé, c'est encore, comme on voit là, en Occident, dans toutes les religions, c'est le mélange du corps, de l'âme. En fait, les gens se perçoivent en religion, mais ils sont le corps qui a une âme. Et la première des différences, c'est que moi, non, je suis l'âme et j'ai un corps. Mais je suis l'âme, je ne suis pas un corps qui a une âme. Pour moi, ça fait toute la différence.
Oui, ça fait toute la différence parce que si c'est traduit, par exemple, pour être en bonne santé, ben pour être en bonne santé, il n'y a aucune notion spirituelle là-dedans. Là. Ça peut être interprété n'importe comment. C'est comme ici à Montréal, il y a un magasin d'aliments biologiques, entre végétariens, et même peut-être même un peu de viande, soit disant que c'est de la bonne viande là, nourrie au grain ou je sais pas trop quoi. Il y a un magasin qui s'appelle Tau, T-A-U, chez Tau qu'on les appelle.
Alors, Saint-Denis.
Hein?
C'est Saint-Denis. C'est un magasin, hein?
Oui, mais il y en a un à Brossard aussi, parce qu'on habite à Brossard. Il y en a un près du terminus, en face du terminus Panama, à Brossard. Et c'est des aliments naturels. Là. C'est un magasin dit d'aliments naturels. Alors, dans un magasin comme ça, là, tout est bon pour passer sous la raison d'être en bonne santé. Alors, tout ce qu'ils vendent là-dedans, là, c'est sûr. Le but ultime, c'est que vous soyez en bonne santé. Alors, c'est pas le concept, ça. Garder l'âme et le corps ensemble. C'est parce que si jamais ils mettaient ça dans leur magasin, achetez seulement en fonction que votre âme et votre corps soient ensemble. Ben là, ils vont perdre peut-être 25% des ventes parce que les gens sont encouragés à manger moins et ne pas se gratifier plus qu'il ne le faut. Mais ça, ils vont jamais faire ça. Mais même si le propriétaire de chez Tau, mettons, serait un dévot de Krishna, juste pour garder la garder le commerce en bonne vie. Ils vont jamais dire ça. Parce que c'est pour tout le monde, pour monsieur tout le monde, alors ça, la vie doit continuer comme ils sont habitués de. Et les gens n'aiment pas se faire dire qu'est-ce qu'ils devraient acheter, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas acheter. Dans le magasin, c'est ouvert à tout le monde, puis il y a des choses qui conviennent à certaines personnes, puis et les mêmes choses ne conviennent pas à d'autres personnes. C'est la vie qui est faite comme ça. Mais un dévot, lui, c'est d'offrir le grand principe pour en ce qui concerne la nourriture, c'est dans quelle proportion ça peut être offert à Krishna. Alors, dans la mesure où ça peut être offert à Krishna, c'est correct avec le dévot. Et le dévot, il ne demande pas mieux que de faire plaisir au Murti en offrant ce qui va faire plaisir au Murti. Et un dévot, comme on dit là, comme on a lu tantôt, les dévots ne sont pas des impersonnalistes. Ils se refusent de façon délibérée des mets délicieux, mais ils acceptent le prasad dans un sentiment d'appréciation pour les reliefs de la nourriture qu'ils considèrent que Krishna a personnellement goûté. Alors, qui sont les gens les plus heureux sur la terre, savez-vous?
Je dirais les dévots de Krishna.
Pardon?
Je dirais les dévots de Krishna.
Exactement. Et quand sont-ils les plus heureux?
Quand ils mangent le prasad et dansent.
Exactement. Là, quand c'est une grande fête, par exemple, Janmashtami ou l'avènement du Seigneur Chaitanya ou du Seigneur Nrisimhadev, dans les temples font toujours beaucoup de préparations. C'est pas que les dévots, un dévot ne devrait pas, mettons, convoiter la nourriture avant qu'elle ne soit offerte à Krishna. Ça, un dévot, là, c'est moindrement dévot dans le cœur. Il va jamais faire ça. Parce que le plaisir du dévot, c'est de préparer la nourriture en sachant très bien que Krishna va goûter à la nourriture. Alors, tu peux pas, tu devrais pas, disons, convoiter cette offrande-là avant même qu'elle soit offerte à Krishna. En général, c'est pas vraiment un problème, ça. Les dévots, c'est facile à suivre, ce principe-là. Mais par contre, quand l'offrande est faite, offerte aux déités, et dans un temple, quand est-ce que les dévots mangent? À partir de quel moment les dévots peuvent manger?
Après que c'est offert aux déités, puis le plat est fini, à la fin totale.
Qu'est-ce qui est fini?
Le programme dimanche, je sais pas comment, toutes les mantras.
Ouais, Anarti, tout ça, mais là on parle spécifique. À partir de quel moment les dévots peuvent manger le prasad?
Après qu'ils l'ont offert.
Ils l'ont offert, oui, mais c'est pas encore le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une offrande aux déités? C'est que le dévot fait l'offrande et tout ça. Et on parle du temple, mettons, on parle du temple de Montréal, là. Alors, le brahman, il va sortir les plats de Krishna, il va les amener dans la salle pour les déités, là. Et là, ils vont transférer la nourriture des plats de Krishna dans des plats ordinaires, disons, pour les dévots. Et là, ils vont faire la vaisselle des plats qui servaient pour faire l'offrande à Krishna. Et les dévots, la règle, c'est qu'ils ne doivent pas manger le prasad tant aussi longtemps que les assiettes de Krishna ne sont pas lavées.
Je ne savais pas.
Ah ben ça, là, tu le sais aujourd'hui. Alors, c'est comme ça.
Ouais,
alors,
ouais, puis il faut des. Il faut vraiment, même quand on est dans la maison, moi j'ai une éponge particulière, c'est vraiment dédié à la vaisselle de Krishna. En fait.
C'est ça. Alors, tant que la vaisselle de Krishna n'est pas terminée, personne ne devrait manger le prasad, même si ça, l'offrande a déjà été finie, offerte à Krishna. Il faut attendre que la vaisselle de Krishna soit faite, et là après, le prasad est disponible. Et c'est une règle qui est suivie dans les temples. Et à la maison, ça peut être la même chose. Offrir à Krishna. Ou, il y a une autre règle aussi. Mettons, pour la maison. C'est dans les débuts, en tout cas quand j'ai joint la conscience de Krishna, il y a le premier Back to Godhead que j'ai acheté et que j'ai lu. Pour votre info, ce Back to Godhead était le numéro 32. Back to Godhead. En anglais, évidemment. Et il y avait un article, justement, sur la nourriture offerte à Krishna. Il y avait un article de Kirtananda, qui était pas Swami à l'époque. Et Kirtananda avait intitulé son article La nourriture qui est bonne pour le corps, le mental et l'âme. Ça, j'avais trouvé ça intéressant comme titre, alors j'avais lu l'article. Et dans cet article-là, on pouvait comprendre le principal, c'est d'offrir sa nourriture à Krishna. Alors, on peut offrir à Krishna même la nourriture qui est dans les pots même, qui ont servi à la cuisine. Et là, après, il n'y a même pas de vaisselle de Krishna, là. C'est direct les pots de cuisine. Alors, quand l'offrande est finie, ben l'offrande est finie, puis le prasad va être pris à même les pots qui ont servi à la cuisine. Évidemment qu'il y a d'autres petites règles. Quand on cuisine pour Krishna, on ne devrait pas goûter la nourriture pendant que c'est en train de se faire. Pas prendre une cuillère puis goûter. Ah, la soupe manque de sel un peu, hein? Rajouter du sel. Ben, quand on cuisine pour Krishna, ben, c'est just too bad. Que s'il manquait de sel dans la soupe, ben, vous saurez pour la prochaine fois, prenez des notes. Puis, disons, ajouter du sel un petit peu plus puis ça sera correct. Mais pas de... C'est la même chose, là. C'est pas offert à Krishna, là, de rajouter du sel. Disons.
Mais ça, quand on fait ça, là, sans goûter, là, on utilise plus notre intelligence, comment cuisiner, qu'est-ce qui manque, que ce pied sur la langue. Là, il faut penser, est-ce que c'est-tu assez gros, le sel, ou les épices qu'on met dedans, là?
Mais c'est ça. Mais c'est une autre façon de cuisiner. Les gens ordinaires, là, qui cuisinent pas pour Krishna, eux autres, ils vont goûter à même. Là. Ah, il manque du sel. Ah, il manque du sucre. Ah, il manque du poivre. Ah, il manque ceci, il manque cela, ou c'est pas assez cuit. Il faut faire cuire plus, etc., etc. Mais un dévot, ça marche pas comme ça, là. Le dévot, lui, il veut y aller, disons, selon son inspiration. Puis d'habitude, ça marche assez bien, merci, que pour balancer les choses pour le plaisir de Krishna. Et si jamais il y a un manque à quelque part, Devo va en prendre note et puis la prochaine fois, ben, il va essayer de faire mieux, puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça, là. Alors, ça, comment on peut dire, le programme de la dévotion à Krishna. Que tu veux pas jouir de quelque chose,
qui n'a pas été offert.
Qui n'a pas été offert à Krishna. Puis tu veux le faire du mieux que tu peux pour faire plaisir à Krishna parce que tu as la conviction que Krishna va goûter la nourriture. Et justement, quand l'offrande est bien faite avec la bonne mentalité, dans les façons prescrites, ben le dévot peut goûter, ah oui, vraiment, ça c'est différent, ça a été offert à Krishna. Et puis c'est le prashad, c'est l'extase. C'est...
Oui. Moi, j'ai remarqué que ben, c'est, si ça sort bien, je me dis toujours c'est que Krishna l'a accepté. Parce que c'est bon. Si ça sort mal, c'est que j'ai fait quelque chose de pas correct, Krishna l'a pas accepté. Alors le goût ne sort pas bien. Puis c'est une chose de personnel, là, mais...
Ouais, ça c'est, mettons, on peut dire c'est discutable un petit peu en donnant un autre point de vue. Dans le sens que, supposons que, en général, tu vas pas faire ça, mais supposons que, tu te dis, ah, moi, je vais engager un chef. Il va venir, tu sais, mettons, t'as un gros festin à faire, là, pour, mettons, tu reçois 100 dévots chez vous, puis là, tu dis, pour une raison ou pour une autre, moi, je touche pas à la cuisine, là. Je vais m'engager un chef. Un chef, tu sais pas qu'est-ce qu'il cuisine d'habitude, puis où qu'il cuisine, mais tu t'engages un chef. Et même si, matériellement parlant, c'est la perfection. Est-ce que vous pensez que Krishna va accepter?
Ben, il n'est pas dévot. Est-ce que le chef, il est dévot ou c'est juste un chef?
Juste un chef.
Ben.
Ça vaut ce que ça vaut, mais, comment dire, si le dévot l'offre à Krishna, ben, il faut que Krishna soit d'accord pour l'accepter. Mais, c'est discutable. C'est discutable. En fait, Krishna accepte pas la nourriture des non-dévots. Il accepte la nourriture des dévots. Et le plaisir des dévots, c'est justement de cuisiner pour l'amour de Krishna. En offrant à Krishna, qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Dans la catégorie des aliments qui sont prescrits. Et puis, avec l'amour et la dévotion. C'est ça, ce que Krishna veut, c'est l'amour et la dévotion. Alors, le soin qu'un dévot prend pour faire plaisir à Krishna, ça rentre dans la préparation des mets pour Krishna, pour offrir à Krishna. Alors, des fois, dans le monde moderne que l'on connaît, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur la rapidité d'avoir des préparations. Tu sais, ils vont faire une publicité, faites votre souper en 10 minutes. Puis là, c'est comme, t'as juste à faire réchauffer pratiquement, puis t'as un repas en 10 minutes. Mais pour les dévots de Krishna, ça marche pas comme ça. Dans le sens, si tu veux vraiment faire plaisir à Krishna, et surtout si c'est dans un temple, là. Dans un temple, il n'y en est pas question d'acheter des repas prêts d'avance en 10 minutes, c'est prêt, puis voilà, on balance ça dans l'assiette à Krishna, puis on va offrir ça à Krishna. Ça marche pas comme ça. Alors, les dévots, faut qu'ils prennent le temps, prennent le soin, prennent l'énergie que ça prend pour faire les choses de façon convenable pour faire plaisir à Krishna. Il y a des genres de préparation, là. Il y a pas de préparation très spécifique qui me viennent en tête, mais qui prennent du temps à préparer. Par exemple, là, je donne un exemple, là. Des gulab jamun. Des gulab jamun, faut que ça trempe dans le sirop de sucre. Pendant au moins un jour, si c'est pas deux jours. Il faut que ça soit frit dans le ghee avant. Alors, il y a toute une série d'étapes, là. T'auras jamais des gulab jamun en 10 minutes. Mais, je sais par expérience, si tu vas dans un magasin, disons, de produits naturels ou pas produits naturels, mais en tout cas, ça existe. Des gulab jamun congelés. Que t'as juste à faire, t'envoies ça au micro-ondes, t'as des gulab jamun. Mais pour Krishna, tu peux pas faire ça. Krishna, lui, s'attend à ce que tu effaces les gulab jamun de la bonne façon. Et puis, au temple, je me souviens, à Paris, on faisait un baril plein de gulab jamun pour les grands festins comme Janmashtami. Et même à Montréal, oui, même au temple de Montréal, c'était pareil, on faisait un baril plein. Un baril à peu près, je sais pas, 40 litres là-dedans. Si c'est pas plus. Alors, plein de sirop, puis plein de gulab jamun. Puis, là, quand tu fais ça, là, les dévots deviennent fous comme des balais. Parce que c'est une des rares fois que tu peux avoir des gulab jamun, en veux-tu, en v'là. Pas juste une par dévot. Ou une pour 10 dévots. T'en as une centaine, c'est pas 200, 300 gulab jamun. Il y en a pour une armée, là. Il y en a pour les invités mettons, de la fête de Janmashtami. Tout le monde peut avoir une gulab jamun. Alors, ça, c'est super. Mais c'est ça, la dévotion à Krishna. Je ne pense pas qu'ils servent des gulab jamun, mais ils pourraient. S'ils voulaient vraiment, mais je pense pas qu'ils font ça parce que c'est long à faire, mais disons, les gens dont tu regardes les gens, par exemple, ils vont se mettre les doigts là-dessus, c'est plein de sirop. Juste le toucher un peu puis ça dégouline de sirop. Wow! Il va falloir qu'ils aillent se laver les mains après, là. En tout cas, en général, ils font pas du gulab jamun. Puis dans les prix d'aujourd'hui, ça coûte une petite fortune, là. En ghee, puis ils en font pas. Alors, ils vont faire des préparations qui sont, malheureusement, qui sont rapides et bon marché. Et ça dépend des temples, ça dépend quels sont leurs moyens. Et je lisais tout dernièrement l'histoire d'un dévot, comment il est devenu dévot. Et ce dévot-là, je me souviens pas de son nom, là, pour tout de suite. Il avait un dévot ami. Il n'était pas dévot encore. Alors, son ami dévot l'a amené au temple le dimanche, pour la fête du dimanche. Et à l'époque, à cette époque-là, à chaque fête du dimanche, il y avait pas moins de 15 préparations à la fête du dimanche. Alors, quand ce dévot-là est allé à la fête du dimanche, qui a goûté à tout, là, c'était fini sa vie matérielle, là. That was it. Il est tombé en amour avec le prashad. Et puis, il est devenu un dévot. Alors, c'est ça, la vie des dévots. Comme on a lu aujourd'hui, là. En fin de compte, les dévots connaissent un mode de vie des plus enviables. Manger, festoyer et danser. Et dans la vie matérielle, c'est une réflexion de ça aussi. Manger, festoyer, danser. Alors, les gens, quand ils disent qu'ils veulent avoir du plaisir, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. Ils mangent. Ils festoient. Et ils dansent. C'est le, comme ils appellent ça, le party, là. C'est le party pour les gens.
Faire la fête. Comment on dit
dans... faire la fête, c'est ça. Alors, quand ça va moins bien, on dit, ah, c'est pas la fête, là. Il me semble qu'ils disent ça aussi, hein.
Exactement.
Ouais.
À la fête.
Ouais. Alors, pour les dévots, c'est la fête. Et Prabhupada, j'ai lu, une lettre de Prabhupada dans laquelle il dit à un dévot, il dit, si vous voulez, je peux vous donner une fête à tous les jours. C'est dans les débuts, là. Alors, imaginez. La conscience de Krishna, c'est une fête à tous les jours. Et il y a des mois que c'est plus la fête que d'autres, là. Ça, je peux vous en donner, mais, comment on peut dire, la certitude. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai joint au mois de novembre au Temple à Montréal. Et il y avait une fête quasiment tous les jours. Une fête de, qu'on appelle la fête des Vaishnavs, des grands dévots de Krishna. Apparition d'un dévot, disparition d'un dévot, ça fait une fête, ça. Au mois de novembre, il y en a beaucoup. Et moi, j'ai joint au mois de novembre. Et au mois de novembre, à cette époque-là, au Temple de Montréal, on jeûnait jusqu'à 2h30 l'après-midi. Et à 2h30, c'était le prashad. Alors, moi, je suis petit nouveau dans la place. Oh boy, j'ai trouvé ça pas drôle, celle-là. Pas plus qu'il faut. Mais il faut s'habituer, c'est la conscience de Krishna. Alors, ça, j'avais de la misère à figurer, mais pourquoi que c'est comme ça? Alors, mais c'était comme ça, au Temple de Montréal. Alors, on faisait tout notre programme, on allait chanter en Harinam tous les jours, sauf les dimanches, on partait vers les 10h, puis on chantait jusqu'à 14h l'après-midi, tous les jours, à Montréal, au centre-ville. Et peu importe la température, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, ça faisait pas de différence. Alors, tu peux être sûr que quand c'est arrivé à 2h30 de l'après-midi, le prashad, là, il était temps. Il était temps que ça arrive. Oh boy, c'était une époque. Et c'est comme ça. Alors, j'ai été dans d'autres temples après et j'ai jamais revu ce genre de cédule-là dans d'autres temples. C'était pas comme ça. Anyway, ça c'est fin de mon commentaire là, sur ce sujet-là. Et quand on est dans un temple, on suit le groupe. Surtout quand on est nouveau, on n'a pas grand-chose à dire, là. On suit la parade, comme on dit. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, il y a un concept dans la conscience de Krishna qu'on appelle maîtriser la langue. Et si je vous pose la question, est-ce que c'est difficile de maîtriser la langue?
Oui.
Normalement, oui.
Et alors, il y en a qui disent oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non?
Ça dépend de l'utilité qu'on... le training qu'on lui donne à la langue.
OK. Alors, je vous prends au mot et je vous dis, vous dites que c'est difficile. Alors, justifiez votre réponse.
Elle veut toujours goûter toutes sortes de choses, la langue. Elle veut dire toutes sortes de choses. Bon, parler de n'importe quoi. Alors, la langue, elle s'en va comme un cheval sauvage. Partout.
OK. Est-ce que, disons, si on repose la question puis on dit non, ce n'est pas difficile de contrôler la langue. En fait, c'est la même question. La réponse, c'est quoi? Si c'est pas difficile de contrôler la langue.
Si on donne du prashad à manger, si on donne du prashad et on parle que de Krishna, et tient de dire des belles-mères, là, des langues de belles-mères, je sais pas,
des non-sens, des non-sens. Parler des, comment ils disent ça, donc? En tout cas, parler des non-sens. On va se comprendre comme ça, là. Alors, c'est difficile si on sait pas quoi faire pour maîtriser la langue. Mais c'est facile si on ne s'en tient qu'à manger du prasad, honorer le prasad, et puis parler de Krishna. Le problème est réglé. Le problème est réglé. Évidemment, mettons que les jours de jeûne, ça peut être un peu plus difficile. Mais ça, c'est pas les demandes de la langue, ça. C'est l'estomac plus qu'autre chose, là. Alors, les jours de jeûne, qu'est-ce qu'on doit faire?
Et à quoi?
Pensez plus à Krishna. Glorifiez plus Krishna. Parlez de Krishna. Les jours de jeûne, ça sert à ça. Remplir plus. Au lieu de penser à son estomac ou à sa langue, pensez à Krishna. Faut se tenir engagé. Ça, c'est le principe. Faut se tenir engagé. Et puis, si on est fatigué, parce que jour de jeûne, c'est pas facile non plus, alors qu'est-ce qu'on fait? On se repose un petit peu. C'est pas interdit, ça. En tout cas, quand on vit dans un temple, là, tu peux prendre une petite sieste, et puis après, tu te remets sur pied, puis tu continues ta journée. Et voilà. C'est ça, là. Mais disons que ça va bien quand on est jeune. Quand on est moins jeune, ça c'est une autre histoire. Parce qu'il peut y avoir des contraintes au niveau de la santé. Qu'on peut pas jeûner une journée au complet, là. Disons, comme par exemple, une personne qui est diabétique, là, oublie ça, là. C'est pas recommandable. Alors, c'est à elle de juger, là, qu'est-ce qu'elle peut faire ou ne pas faire au détriment de sa santé. Parce qu'on doit prendre soin de sa santé. C'est le corps que nous avons, c'est notre instrument pour servir Krishna. Alors, on doit faire le nécessaire.
Quand le jeûne rentre à manger juste des fruits et des légumes, là, ça c'est un jeûne aussi, un autre genre de jeûne? Je peux pas manger de céréales, de graines, n'importe quoi.
Ça c'est un jeûne, le jour des Kadassis, ça. C'est,
oui, oui.
Mettons, c'est comme ça, c'est un jeûne de grains de céréales. Le reste, ça peut être mangé. Et même à ça, si quelqu'un veut être un puriste, pur et absolu, là, il devrait pas manger rien. Il devrait rien manger le jour des Kadassis. Rien manger, peut-être boire un peu, mais Prabhupada, il savait très bien, là, ça va pas marcher avec les Occidentaux, là. Oublie ça. Alors, peut-être pour Janmashtami, les grandes journées de fête de Krishna, là, ça peut toujours aller, mais pas sur une base régulière, là, deux fois par mois avec les Ekadassis, là. Non, non, non. Prabhupada lui a ajusté. Mangez pas de grains, mangez pas de céréales. Faites une nourriture Ekadassis. Et puis, voilà, vous allez passer à travers. Et Prabhupada, il a arrangé ça comme il faut.
Oui.
Et Prabhupada, il savait ajuster s'il fallait ajuster. C'était pas quelqu'un qui impose des principes, puis débrouillez-vous crevez en chemin si vous êtes pas capable. C'était pas sa philosophie, ça. C'était ajuster. Et puis, si vous êtes pas capable, ben, même à ça, Prabhupada, il pouvait donner des instructions. Et comme Krishna dans la Bhagavad Gita aussi, Krishna il demande un abandon total. Mais dans la Bhagavad Gita, il dit à Arjuna, si t'es pas capable de faire ci, fais ça. Si t'es pas capable de faire ça, fais ci. Si t'es pas capable de faire ça encore, fais ça. Alors, il y a des ajustements qui peuvent être faits. Mais le principe demeure toujours le même, à savoir de penser à Krishna, remplir son mental de Krishna, parler de Krishna, se souvenir de Krishna. Écouter, chanter, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Écouter, parler de Krishna, se souvenir de Krishna. Ça, c'est des principes de base de la conscience de Krishna. Alors, un dévot très heureux, la formule que Prabhupada a donnée, chanter, comment c'est dit ici, manger, festoyer, danser. Ça, c'est, les dévots sont unanimes là-dessus. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de chicane. Tout le monde est très coopératif. S'il s'agit de manger du prasad, chanter, festoyer, danser, qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? C'est une belle vie, ça. Et c'est pur, en plus. T'auras pas de réaction pour ça. Dans une vie ultérieure, à récolter des réactions. Et même dans cette vie-ci, t'auras pas de réaction néfaste. Si tu restes dans les règles de la modération, par exemple. Comme c'est dit là, si ça n'a pas été dit déjà, même si c'est du prasad, c'est pas une raison d'en manger trop. Il faut faire preuve d'une certaine modération. Et comme la prière du prasad qu'on a lue aujourd'hui, tu manges à ta pleine satisfaction. Mais à ta pleine satisfaction, si toi, ta quantité maximum, c'est, mettons, 500 grammes, ben, c'est 500 grammes. Et pour un autre, mettons, c'est 1 kilo, ben, pour lui, c'est 1 kilo. Mais les deux deviennent satisfaits à leur pleine satisfaction si c'est ça qu'ils veulent. Si c'est ça qui fait leur bonheur, c'est correct. C'est pas obligé que tout le monde mange 5 kilos. Pour dire, ah, là, je suis bourré, là, je suis pas capable de rentrer une cuillère de plus, là. tu manges à ta satisfaction. Et.
Il y a suffisamment de nourriture aussi. C'est parce que justement, il y a trop de gaspillage que ça n'arrive pas là, enfin, voilà. Après, on sait, c'est lié aussi au karma des êtres, mais, quand on dit qu'il n'y a pas assez de nourriture, il y a suffisamment de nourriture, les dévots, malgré toutes les offenses qu'on commet, il y a de la nourriture.
Exactement.
Mais elle est trop gaspillée.
Oui, Prabhupada dit qu'il y a de la nourriture pour nourrir 10 fois la population sur la Terre.
Ils disent le contraire dès qu'ils en ont l'occasion.
Oui. Et il y a un autre problème aussi, c'est le capitalisme, à savoir que faut protéger les prix. Faut s'assurer, même d'en jeter, s'il y en a trop, justement, pour la maîtrise, le contrôle des prix.
Bah, que ça tombe. Si ça tombe, il faut de l'argent.
Alors, je sais qu'une fois, j'étais en Suisse, et, on avait été au temple de Genève, et, le président du temple à l'époque, il disait justement que dans les jours qui viennent, ils allaient abattre à peu près, en tout cas une quantité phénoménale de vaches, parce qu'il y avait trop de lait, trop de produits laitiers, quelque chose de même, là. C'est malheureux, très malheureux. Tu sais, si t'as trop de lait, fais quelque chose avec, tu peux faire du beurre, tu sais, tu peux faire du fromage. Envoie ton beurre, envoie ton fromage dans les pays où il n'y en a pas. Rends les gens heureux.
Ça ne mange pas avec leur business.
T'sais, envoie ça en Afrique, ils n'en ont pas, eux autres, là. Envoie ça où il y a des famines. Tu peux nourrir le monde. Question de bonne volonté, ça. Et de politique, évidemment. Alors, une question de ressources. Mais dans la conscience de Krishna, quand on regarde, par exemple, le festival de Ratha Yatra à Londres, les dévots finissent le Ratha Yatra, la destination finale, c'est Trafalgar Square à Londres. Et là, tu peux mettre facilement 10 000, 20 000 personnes qui viennent à ce square-là. Puis les dévots sont là, distribuent du prachad, comme on disait tantôt, à coups de barils. Des barils pleins de prachad, du riz, whatever, qui sont capables de cuisiner. Et disons, j'étais à Londres, mon premier Ratayatra, c'était à Londres, en 71. Et les dévots cuisinent un bon 2 jours d'avance pour justement qu'ils soient prêts à distribuer le prachad à des milliers de personnes. Ça, c'est les dévots, c'est le plaisir des dévots, ça. Partager le prachad, distribuer le prachad. Ils savent en même temps non seulement que c'est délicieux le prachad, mais ils savent que ça fait plaisir à Krishna de distribuer sa miséricorde, distribuer le prachad à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? C'est vraiment une belle vie, la vie des dévots de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de venir au cours. C'est très encourageant. Ça nous maintient en vie. Et puis, je voudrais juste dire un petit mot à Virginie et Ananda pour le projet de livre. Merci beaucoup. Hare Krishna.
Merci.
Hare Krishna.
Hare Krishna, Madame Ananda. À la prochaine. À bientôt. Bientôt. Bye. Alors, c'est ça. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu sur le projet de livre et je me suis dit que je vous demanderai pas de faire toutes les étapes que moi je fais. Vous m'entendez, là?
Oui.
OK. Alors, je vous donnerai... je ferai une certaine forme de préparation de texte. Et après, je vous donnerai ces textes-là. Et que ce serait pas... Ça serait moins difficile pour vous autres. Plus, disons, expéditif. Et je pense que ce serait une façon de travailler comme ça.
OK.
Alors, je pense qu'on pourrait se faire une autre réunion pour discuter un peu plus, là, dans le pratico-pratique.
Mm-hmm.
Et peut-être que je pourrais faire quelques exemples devant vous autres.
Oui.
Que vous pourriez voir comment je fais. Puis là, après, c'est vraiment pas si difficile que ça. Alors, je vous reviendrai là-dessus. On va s'en reparler et de ça. Et là, je vous dis ce que moi je fais ou ce que j'ai fait à date. Je suis toujours dans le Antialila, volume 1. Dans le volume 1, il y a 8 chapitres et je suis dans le 6e chapitre. Disons que le livre a à peu près 750 pages et là, je suis dans les 620 pages dans ce coin-là, là où est rendu mon travail. Alors, le chapitre 6 est vraiment long, hein? Le chapitre 6, il fait 324 versets.
Wow.
Et là, je suis à peine... Attends, je pense que je suis rendu au verset 150 ou... En tout cas, je me souviens plus exactement, là, mais j'en fais un petit bout à tous les jours. Je me dis, si je fais une moyenne de 20 à 40 versets par jour, ça va être beau. Mais il y a des étapes. C'est quelque chose de préparer les textes. Ça, j'en conviens. Et je pense que ce serait plus facile que je prépare les textes, puis ensuite je vous refile ces textes-là, les chapitres. Là, on parle de chapitres, là. Puis là, après, ben vous faites votre travail dans un chapitre respectif, là. Moi, je pense que ça serait une bonne façon de faire.
OK. Ben, tu reviens vers nous?
Oui, je vais vous revenir. Je pourrais commencer le Antsalila volume 2. On va se concentrer sur Antsalila. Pour, disons, et puis, moi, le Madhyalila que j'avais confié à ce garçon-là, tu sais, je vous avais parlé qu'un garçon, là, Pradyumna, ben là, c'est comme s'il a débarqué, lui. J'entends plus de lui, et puis il avait des problèmes personnels, familiales, et j'ai compris que lui-même m'a dit qu'il allait faire telle chose. Alors, j'ai pris ça comme j'ai pas entendu de lui depuis 3-4 semaines. Alors, je me dis, ah ben lui, on va pas compter sur lui. On va laisser faire. Si jamais il revient, tant mieux, mais pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Alors, on va laisser le Madhyalila tranquille. Moi, je l'avais déjà commencé. Alors, on reviendra en temps et lieu. Mais on pourrait mettre notre attention sur le Antsalila, le 1 et le 2. Moi, je vais finir le 1 parce que je suis déjà rendu pas mal assez loin là-dedans. Et je pourrais vous confier le volume 2. Et là, on va s'arranger que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à faire, comment le faire. Et puis, c'est pas si sorcier que ça, non. Je vais préparer les textes de 1, puis après, ben, c'est vraiment pas si difficile. Ça devrait pas être si difficile que ça à faire. Fait que c'est ça. On va y aller pour le volume 2. Et puis, je sais pas, moi, dans le volume 2, un chapitre pour Virginie, un autre chapitre pour Ananda. Où on sépare le livre en deux, quelque chose comme ça.
Il faudra voir comment c'est fait.
Ouais, c'est ça. Alors, on pourrait... C'est ça. Je vais préparer un chapitre, volume 2, un chapitre, et puis on divisera en deux. Une partie pour chacune de vous, puis on verra comment ça va aller. Je pense que ça va bien aller. Et voilà. Alors, je vais préparer le texte et je vais vous envoyer, excusez-moi, un courriel vous disant, que voici le texte est prêt, patati patata. Ensuite, on se donne une réunion Zoom. Puis on va mettre ça au clair, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Vous avez juste à formuler vos questions, commentaires, etc. Puis, on prendra ça comme ça.
Oui.
Ça va?
Oui.
OK.
Merci beaucoup.
De rien, ça nous fait plaisir. Et là, je présume que vous allez travailler, hein, vous retournez à vos emplois.
Ah oui.
La rentrée dans l'atmosphère.
C'est ça, en regardant des achats et en regardant quand même ne pas se toujours, parce que c'est pas. c'est pas le principal en fait. On fait notre travail, mais le principal c'est de l'offrir à Krishna, et de faire des choses qui sont pas répréhensibles. Voilà.
Ben oui.
Mais il faut bien gagner notre vie.
Exactement. C'est ce qu'on appelle gagner sa vie honnêtement.
Voilà. On n'est pas des mendiants.
Prabhupada en parle de ça dans le Srimad Bhagavatam dans les débuts. Il dit justement, il parle de ceux qui sont des simulateurs, qui, il dit, vaut mieux être un honnête homme qui balaie dans la rue que d'être un simulateur. Et il parle justement, il parle de ce principe-là, de gagner honnêtement sa vie. Et ça, c'est correct. Ça fait partie de la vie. Et Prabhupada lui-même l'a fait, ça. Alors,
oui.
Prabhupada était pharmacien.
Pharmacien, c'est ça, oui.
Ouais. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Prabhu.
Merci beaucoup. Et puis, on va se reparler bientôt. Et puis, voilà.
Ça marche. Merci.
Merci. Merci. Passez une belle soirée. Hare Krishna.
Hare Krishna.